Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur l'itinéraire d'un escroc nommé Christophe Rockefeller, Christopher Lenoncourt ou Fabien Ortounot ou encore Christopher de Laurentiis. Derrière cette liste de noms comme autant d'alias, se cache un seul et même homme, Christophe Rockencourt. Ses identités, au début de la décennie 2000, aux États-Unis, ce jeune Français les a inventées pour escroquer des hommes et des femmes plus ou moins célèbres et plus ou moins riches. Séducteur, gouailleur, flambeur, le personnage Rockencourt étonne, surprend, fascine. Une affaire plus que les autres retient l'attention. Nous sommes en 2006. De retour en France, on pense Rockencourt à sa J.I. et Rangé. Une réalisatrice, Catherine Breillat, propose à l'arnaqueur repenti un rôle dans son prochain film. Entre ces deux personnes que tout oppose, une relation s'installe, amicale, intime, proche. 3 ans plus tard, Catherine Breillat porte plainte pour abus de faiblesse. Elle accuse Christophe Rockencourt de l'avoir ruiné. Alors, qui est cet homme? Quelle est sa méthode? Comment parvient-il à convaincre, séduire, flouer? Autant de questions à la lisière du vrai et du faux, de la confiance ou de la faiblesse, de la psychologie et de l'apparence. Autant de questions délicates auxquelles la justice doit pourtant apporter des réponses. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Jean-Yves Liénard, avocat pénaliste. Il a été le défenseur de Christophe Rockencourt lors du procès de l'affaire Breillat. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
J'accueille Christophe Rockencourt. Christophe Rockencourt, ça va?
Ça va, ça va.
Alors, Christophe, la presse vous a baptisé l'escroc des stars de Hollywood, mais on se rend compte en lisant votre livre « Mévie » chez Michel Lafon que ce n'est pas la meilleure définition et surtout que c'est beaucoup mieux que ça. On pourrait dire que vous êtes plutôt la star des imposteurs, non?
Oui, oui. On a fait un peu de business.
Ouais.
Samedi 25 février 2006. Ce soir-là, seule dans son grand loft parisien, Catherine Breillat découvre, comme de nombreux Français, un jeune homme de 39 ans, invité sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, Thierry Ardisson. Il s'appelle Christophe Rockencourt. Ce soir-là, Catherine Breillat est enfermée dans cette moitié de corps qui depuis un an ne répond plus. En avril 2005, elle a été victime d'un AVC suivi d'une hémorragie cérébrale qui lui a paralysé tout le côté gauche. De retour chez elle, après plusieurs mois à l'hôpital, la réalisatrice de 58 ans lutte contre le handicap. C'est dans l'art, et surtout la littérature et le cinéma, que Catherine Breillat va puiser la force et l'énergie d'avancer. À la limite du trop, disait un producteur pour définir celle qui, depuis 40 ans, à travers une dizaine de livres et de films, a bâti une œuvre singulière et incendiaire sur l'amour, le sexe, les femmes, dont chaque sortie s'accompagne souvent des adjectifs provocateurs, sulfureux, scandaleux.
Qu'est-ce qui vous a le plus rapporté?
Les affaires.
Qu'est-ce qui vous a le plus amusé?
La connerie humaine.
Qu'est-ce qui a été le plus dur?
50 prisons.
Qu'est-ce qui vous motivait le plus?
Partir de rien et d'arriver.
Qu'est-ce qui a failli vous griller le plus souvent?
Moi-même.
À quoi étiez-vous particulièrement bon?
Connaître la nature humaine.
Qui avez-vous toujours refusé d'arnaquer?
Les personnes qui ont rien.
Oui, c'est lui, se dit Catherine Breillat au bout de seulement quelques minutes. Oui, c'est lui qu'il faut interpréter le rôle masculin de son 13e et prochain film, Bad Love. L'histoire d'une passion tragique entre un homme et une femme que tout oppose. Elle, star, sublimée, hautaine, lui, un petit gars sans envergure et sans le sou, plutôt frustre. Pour l'actrice, Catherine Breillat a déjà trouvé, ce sera le mannequin Naomi Campbell. Et pour l'acteur, Rockencourt donc, qui n'est pas comédien. Mais le cinéma et le théâtre ne sont plus à cela près, on veut un bankable, et tant pis pour les comédiens de métier qui pendant ce temps rongent leurs freins dans les méandres de l'intermittence. Car telle est la méthode de Breillat. Elle cherche, comme elle l'a toujours fait, attendant le hasard d'une rencontre, à la terrasse d'un café ou dans la rue. Un physique, une présence d'abord qui s'impose. Un amateur, brut, toute vierge qu'on peut façonner, bâtir, forger. Et en ce samedi 25 février 2006, Rocancourt apparaît derrière l'écran de télévision comme une évidence. Cette voix traînante, cette pointe d'accent normand, ce ton franc, assuré pour répondre aux questions d'animateurs en costume et t-shirt noir. Oui, décidément, ce soir-là, il se passe quelque chose. Dans cette émission, tout le monde en parle, diffusée sur France 2, animée par Thierry Ardisson et produite par la société Tous sur l'écran, dont vous venez d'entendre un extrait. Pourtant, Christophe Rocancourt présente un physique assez banal, ni beau, ni moche, plutôt petit, un regard enfoncé, le corps en retrait, les épaules serrées. Mais il y a cette attitude un peu crâne quand il raconte son histoire pour le moins hors norme. Ça peut plaire à une cinéaste qui manifestement ne considère pas le métier de comédien comme forcément utile. Ce samedi 25 février 2006, Catherine Breillat, comme des millions de Français, découvre donc l'incroyable aventure de Christophe Rocancourt. Et comme de nombreuses personnes qui ont croisé sa route jusque-là, elle tombe sous le charme du désormais célèbre arnaqueur. Bien. Mais quelle est donc cette légende Rocancourt ?
Et maintenant, c'est fini les conneries ?
J'arrête les conneries. Si ça a été des conneries, je pense pas que ça a été des conneries. C'était une démarche. Elle est peut-être pas bonne. Je vois pas de conneries dans ça.
Christophe Rocancourt, c'est d'abord un récit. Dans le rôle du narrateur, Rocancourt lui-même. Dans celle du diffuseur, les médias, c'est leur rôle. Et d'emblée, le personnage pose les jalons de sa légende tout droit tiré d'un roman de Zola. Un jeune garçon, né en 1967 dans le Calvados, d'une mère prostituée qui le délaisse et d'un père alcoolique mort sur un banc public. L'abandon, l'orphelinat, l'assistance publique, première fugue, premier larcin et déjà, enfant, ce don de raconter des histoires. À 17 ans, Rocancourt s'échappe de sa famille d'accueil, quitte sa Normandie natale et tel Rastignac gagne la capitale. Alors qu'il erre sur un banc du métro des Halles, le fils d'une famille aisée le prend d'amitié et lui fait découvrir le Paris chic des années 80. De soirée en réception mondaine, Christophe Rocancourt apprend et la manière, et les gestes, et la séduction, et le style. Voilà pour la panoplie. Le jeune homme observe, analyse, retient l'école singulière de ce nouveau monde. Mais s'il note une chose plus que tout autre, c'est que dans ces sphères, une seule valeur compte, sonnante et trébuchante, l'argent. Alors, Christophe Rocancourt se dit que la méthode la plus efficace pour être riche, lui aussi, c'est l'arnaque. Il réalise sa première en 1986. Il a 19 ans. Imaginatif, il vend plus d'un million de francs à un immeuble du 16e arrondissement qui appartient au père de sa petite amie. Pour y parvenir, il reproduit des actes notariés sous un faux nom. Déjà le masque de l'identité, l'usage de celle d'un autre. Arrêté, il passe quelque temps en prison et lorsqu'il en ressort, en 1990, il décide de traverser l'Atlantique.
Le luxe, qui n'aime pas le luxe ? Il y a aussi beaucoup de gens qui se contentent d'être pauvres toute leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas le choix, ils n'arrivent pas à se battre et ils n'arrivent pas à survivre. C'est pour ça que je les aime. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans sa condition. C'est pas simplement le fait d'être pauvre, ce qui était inconcevable, c'était ce que j'ai vécu. Est-ce que vous avez une notion de où je suis passé dans ma vie ? Entre mes souffrances, d'où je suis venu, de ce que j'ai fait.
C'est là que tout commence vraiment, c'est là que la légende Rocancourt se forge. Tour à tour boxeur, héritier de grande famille, pilote de Formule 1, Christophe Rocancourt change de nom et de personnage. Fils du célèbre producteur de cinéma italien Dino De Laurentiis, prince Calitzine Cristo, Christopher Van Hoeven. Pour le reste, Rocancourt le sait, il l'a appris, tout est dans le clinquant, les signes extérieurs de richesse qui instaurent la confiance. Voilà la méthode Rocancourt, par la tchatche et le charme, il parvient à convaincre n'importe qui lui prêter de l'argent. En échange, il promet que l'investissement sera multiplié rapidement, bien sûr. Alors l'interlocuteur accepte, mais il ne reverra jamais ni Rocancourt ni sa mise. Avec cet argent, le Français flambe, dépense, profite. Il conduit des voitures luxueuses, porte des montres de marque, loue des palaces. Cet apparat attire les regards, mais surtout donne de la consistance à ses rôles. Le luxe, pour Rocancourt, c'est le costume nécessaire de ses personnages. Le luxe, c'est le geste, du bagout et de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Déplacement en hélicoptère, voyage en jet privé, dépenses somptuaires dans les restaurants. À Los Angeles, Rocancourt fréquente le monde des célébrités. Il croise Meryl Streep, Johnny Depp, Al Pacino. Mais surtout, il se lie d'amitié avec Mickey Rourke. Les deux hommes sortent beaucoup ensemble. Des photos sont publiées dans la presse People. Des photos qui permettent à Rocancourt de montrer qu'il est bien quelqu'un. Bref, qu'il fait partie de la haute et des happy few. Le but étant bien sûr de rassurer ses cibles.
Je pense qu'une bonne imposture, c'est quelque chose qui est authentique. On ne fait pas de différence. Donc c'est ça une bonne imposture, c'est l'authenticité. Vous savez, qu'est-ce qui fait un bon acteur pour vous? Qu'est-ce qui fait un bon acteur? Quand vous voyez le personnage, il est ce qu'il est. Mais le vrai acteur, c'est un acteur dans la rue. Ça, c'est mon sens d'être acteur. Moi, je pense que j'avais cette qualité. Malheureusement, je l'ai employé dans un mauvais sens. Si j'avais su plus tôt et j'avais eu l'intelligence, j'aurais essayé de faire des films. Malheureusement, mon intelligence était limitée.
Après un an passé à Los Angeles, coup d'arrêt. Rocancourt se fait pincer pour le cambriolage d'une bijouterie à Genève. Il passe quelques temps par la casse-prison, puis repart aux États-Unis où il reprend son, ou plutôt ses, rôles d'armateur. À la fin des années 90, second coup d'arrêt. Il est interpellé par le FBI pour possession de faux passeports. 6 mois de prison plus tard, on le retrouve à New York. Cette fois terminé les célébrités, son talent érodé, il change de gibier et s'attaque à d'autres portefeuilles bien remplis, les traders de Wall Street. C'est là qu'il invente son plus beau rôle, celui de Christopher Rockefeller, héritier de la célèbre famille américaine. Il impressionne, il rassure et on lui confie de l'argent, beaucoup d'argent, de plus en plus. Sauf qu'en 2000, un agent du FBI, George Mueller, commence à rassembler des plaintes contre cet escroc français qui change de personnage au gré des arnaques. L'inspecteur fait les comptes. Au total, Christophe Rocancourt aurait escroqué plus de 30 millions de dollars. Un Madoff de série B. Après un an de cavale que le fugitif n'hésite pas à mettre en scène puisqu'il distille des interviews dans la presse, ce qu'il appelle directement George Mueller pour le narguer, Christophe Rocancourt est arrêté au Canada le 26 avril 2001. Après une extradition aux États-Unis, il débute ses 5 années de prison. Une situation qu'il met à profit. Les médias américains s'intéressent à lui, racontent son incroyable histoire qui bientôt dépasse les frontières et trouve un écho jusqu'en France. Rocancourt accorde même des interviews depuis sa cellule américaine. Ah, pourquoi jeûner?
Refaire, c'est drôle, mais c'était drôle parce que c'était parti d'une blague. Bon, je vous l'explique tout simplement. Bon, je suis français, fier de l'être, de surcroît. Mais avec un accent, même en anglais, que je parle en anglais couramment, je reste cet accent français. Donc, un Rockefeller anglais avec un accent français. Me dites pas que c'est pas un peu fort. Nos amis les Américains sont un peu cons, hein. Voilà, donc ça a commencé avec une blague, mais je crois que ce qui a fait que ça a passé, c'est l'argent que je possédais, ce qui était autour. Et je prenais l'hélicoptère 2 fois par jour, ça coûtait à peu près 10 000 dollars américains. Vous voyez, j'avais un secrétaire, j'avais tout ça, donc c'est ce qui a fait. Je crois que la mise en scène a fait beaucoup.
Dès 2002, Michel Lafond publie la biographie intitulée « Moi, Christophe Rocancourt, orphelin, playboy et tolard » que le Français écrit en prison avec l'aide d'un journaliste. Le livre devient best-seller, vendu à plus de 80 000 exemplaires. Cette fois, il écrit les chapitres de son dernier personnage, Christophe Rocancourt lui-même, le vrai, l'escroc repenti, l'arnaqueur qui assure et qui assume, et qui assure que c'est terminé. Oui, il a payé sa dette, il se range, mais il reste franc. Il regrette? Non. Parce que c'était une revanche sur l'enfance. Et puis, il ne voulait qu'aux riches. Il n'a tué personne, après tout. C'est un Robin des Bois des stars. Un Arsène Lupin d'Hollywood. Il a menti. On l'a cru. Tant pis pour les crédules. On oublie au passage de relever que, contrairement au héros de Sherwood, il n'a rien redistribué, lui. Qu'à cela ne tienne. Comme Catherine Breillat, la réalisatrice qui trouve son futur acteur ce soir de février 2006. Ils sont nombreux, journalistes, producteurs, éditeurs et français en général, à tomber sous le charme du fringant quadragénaire. Cette sincérité, ce franc-parler, et puis quand même ce petit Frenchie abandonné en Normandie qui arnaque les millionnaires américains, on ne va pas bouder son plaisir. Et donc, personne ne vérifie les dires de Rocancourt. On sent bien pourtant qu'il grossit le trait, qu'il glisse une petite vérité entre deux gros mensonges. Mais si les plus grands médias américains eux-mêmes en ont fait des tonnes, c'est qu'il y a une histoire, forcément, une bonne.
Vous savez, je pense que dans la vie, on a une destinée, on a des rencontres, des parcours. Et
Il y a des choses qui font que c'est un bon moment et il y a les aimants qui rentrent ensemble. Vous savez, vous pouvez vous poser une simple question lorsque vous rencontrez quelqu'un. Pourquoi vous rencontrez cette personne? Des moments, il y a des rencontres qui n'ont aucune évidence au départ. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous parler, ça paraît banal et ça ne l'est pas. Je pense que la vie est faite ainsi. Il y a des rencontres qui font qu'elles sont mieux que les autres et il y a des mauvaises rencontres.
Allô, c'est vous, Christophe Roquencourt? Je vous ai vu à la télé. Je vous appelle pour que vous veniez me voir chez moi, car je pense que vous êtes le personnage de mon prochain film. La première rencontre a lieu chez Catherine Breillat, deux jours plus tard. Elle l'observe, l'écoute, le scrute. Roquencourt lui fait son show. Il lui demande si elle connaît sa vie, si elle sait qu'on va l'adapter au cinéma. Oui, un producteur, Thomas Langman, qui est allé le voir en prison, a acheté les droits de son autobiographie. L'impression initiale de la réalisatrice se confirme. C'est exactement l'homme qu'il lui faut pour interpréter son personnage. Alors, elle lui raconte les grandes lignes du scénario. Christophe Roquencourt aime l'idée. Il demande d'ailleurs le script pour donner son accord. Et quelques jours plus tard, il accepte, mais à une condition, être payé 100 000 euros de plus que Naomi Campbell, l'actrice. À partir de là, s'installe une relation singulière, rapide, extrême, entre l'amateur et la cinéaste. D'ailleurs, il l'appelle souvent, il se voit presque quotidiennement. Ils déjeunent, se promènent, dînent ensemble. Christophe aide Catherine à marcher, il la sort. Pour la réalisatrice, c'est tout à coup un souffle de vie. Une expérience aussi que de se confronter à ce bad boy à la fois gênant et attachant, si éloigné de ses relations habituelles. Aventure adolescente, bravade d'un interdit imaginé ou fantasmé, tels sont les ingrédients de cette relation.
J'aime les gens qui ne sont pas acteurs, qui n'ont pas déjà été utilisés. En fait, j'aime la toile vierge. Très adolescent, ça se voit pas tant que ça là, mais quand il est arrivé, parce qu'après je me disais, oh là là, je suis allée le chercher, peut-être qu'il est trop vieux, peut-être que c'est pas mon personnage, qu'il est trop dur. Et en fait, il a quand même quelque chose en même temps quand il arrive d'un peu timide, une arrogance mais adolescente, comme un adolescent qui fume pour faire croire qu'il est un grand, qui est pour cela jouer Humphrey Bogart.
Les semaines filent, Catherine Breillat termine de monter un film et travaille sur le scénario de Bad Love, pendant que son producteur essaie de trouver le financement. Christophe Roquencourt, lui, continue la promotion de son livre à travers le monde et parle de ce qu'il appelle son business, ses affaires. Catherine et Christophe continuent de se voir, souvent. Et puis un jour, ça arrive comme ça, au détour d'une conversation. Catherine, j'ai besoin d'argent, je n'ai pas d'argent propre. La réalisatrice s'étonne. Entre le projet de film sur sa vie et les ventes de ce livre, il lui avait dit avoir gagné près d'un million d'euros. Mais bon, Catherine Breillat veut l'aider. Elle voit ce coup de pouce comme une preuve de leur amitié naissante. Et puis surtout, ils vont travailler ensemble. Je pourrais te signer un scénario sur ma société, cela représente un travail. Tu me dois ce scénario, soit tu ne le fais pas et tu me rends l'argent, soit tu le fais et je m'en servirai. 25 000 euros, voilà. Et c'est le premier chèque avec la signature de Catherine Breillat à l'ordre de Christophe Roquencourt. Un simple coup de stylo. Le premier d'une longue série, l'engrenage commence.
Ne dis rien, tu vas me mentir comme la dernière fois. Je sais bien ce que tu vas dire, c'est ta sœur ou je ne sais quoi. Non, je ne veux rien entendre, ne fais pas le joli cœur. Tu es le roi des menteurs. Le roi des menteurs. Tu ferais bien mieux de te taire au lieu de ramener ton copain. Lui non plus, il ne vaut pas cher. Tu peux lui donner la main. Vous serez à vous entendre. Les rois des menteurs.
un homme frustre, pas très intelligent, qui rentre dans la vie d'une star quand même, parce qu'il se débrouille comme ça, mais un peu par intrusion, une espèce de chose qui se produit entre eux, qui devient mais tellement amoureux et fusionnel, mais elle ne veut pas le montrer. Elle en a quand même honte, parce qu'il parle trop fort, donc sa bêtise se voit quand il parle. Ils ne sont pas du même monde, et néanmoins, elle est sous son emprise. Donc, étant sous son emprise, il l'amène en plus dans un territoire qui devient le sien, enfermé dans son studio à lui qui est minable et pas dans son appartement à elle qui est sublime. Rocancourt, il était exactement ce personnage-là, d'une certaine manière, comme acteur, pas comme Rocancourt dans la vie. Mais pour moi, oui, c'était le personnage. Quand on fait du cinéma, mais ça transcende. On est fort, et j'ai été tellement forte que j'ai pas mesuré ma faiblesse.
Catherine et Christophe, comment expliquer cette relation quand tout se mêle et s'en mêle? Il y a l'amitié d'abord, sincère, exprimée, vécue. Ce temps passé ensemble, plus d'un an déjà. Cette confiance qui s'instaure. Christophe Rocancourt lui présente sa femme, Sonia Roland, l'ex-Miss France, avec qui il vient d'avoir une petite fille. Il s'occupe d'elle, partage son intimité, lui parle de ses projets, lui propose d'y participer. Catherine Breillat s'embarque avec lui. De son côté, la cinéaste a décidé de déménager dans une maison au nord-est de Paris. Avec son handicap, en effet, son loft n'était plus adapté. Pour l'achat de la maison, elle contracte un prêt relais auprès de sa banque de plusieurs centaines de milliers d'euros le temps de vendre le loft. Christophe Rocancourt le sait, ils en parlent, évidemment, puisqu'ils partagent tout, ou presque. Tout cela au moment où les demandes d'avance de Christophe Rocancourt sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus élevées également. Avec à chaque fois le même argument. L'arnaqueur repenti lui explique qu'il a des ennuis, qu'il risque la prison parce qu'il a fait un chèque sans provision. Chaque fois, c'est juste une passade, il va se refaire, il faut un peu de temps, voilà. Et puis surtout, il ne sait pas à qui demander d'autre. Chaque fois, Catherine Breillat se dit qu'il va finir par toucher l'argent de ses projets. Alors, à chaque fois, elle signe des chèques. Au fil du temps, Catherine Breillat s'isole, de sa famille notamment. En novembre 2007, après une crise d'épilepsie, elle se blesse au poignet. Pendant toute la rééducation, elle n'est plus autonome. Son fils l'accueille chez lui, mais la situation se dégrade rapidement. La réalisatrice sent-elle qu'elle est un poids pour sa famille ? Est-ce que, en vérité, c'est parce qu'elle préfère être avec Christophe Rocancourt? Ce dernier lui propose de le rejoindre, lui, sa femme et sa fille en Normandie. La cinéaste accepte.
Lui, il a décidé de me voir tous les jours avant. Moi, un acteur, je le choisis, je le vois pas.
Et lui, il poussait quand même pour qu'il y ait vraiment une intimité entre vous, pour que vous soyez seul, en tête à tête, pour que vous alliez vous balader. Une fois vous raconter qu'il s'immisce vraiment dans votre chambre, quand même, il serait bien allé plus loin, lui.
Je sais pas.
Est-ce que
oui,
ça aurait
je pense
été un...
qu'il aurait voulu au moins me faire croire qu'il était.
Ouais.
Oui, ça c'était pour que j'aille pas porter plainte. Donc il se disait, si elle est amoureuse...
Pendant 4 mois, Catherine Breillat partage la vie de famille Rocancourt, passe Noël avec elle. L'ancien escroc est occupé la journée du côté de Deauville. Il veut racheter un restaurant. Alors c'est Sonia Roland qui s'occupe de Catherine Breillat. Entre les deux femmes, une complicité se crée. Elles en viennent petit à petit à se rendre compte du comportement parfois odieux de Christophe Rocancourt. Pourtant, le charme continue d'opérer. Une sorte de dépendance est forgée chez Catherine, physique, affective. Et puis il y a Sonia. En mai 2008, quelques mois plus tard, Sonia, Catherine, Christophe et Naomi Campbell montent ensemble les marches du Festival de Cannes, annoncent des films en préparation. Une image qui frappe, cet alliage improbable entre la réalisatrice, le mannequin, l'ex-Miss France et l'ancien escroc. Dans les coulisses, pourtant, l'engrenage continue. L'emprise de Christophe Rocancourt sur Catherine Breillat s'affirme de jour en jour, de mois en mois, de chèque en chèque. Les sommes sont de plus en plus élevées, les raisons invoquées de plus en plus troubles. Il s'agit de participer à l'achat d'un restaurant, une superbe affaire, vite rentable. On parle désormais de règlements allant jusqu'à 150 000, voire 300 000 euros. Et Catherine Breillat signe. Elle a conscience, évidemment, qu'elle court à sa perte, qu'elle ne peut plus suivre. Sa carte de crédit est bloquée, sa banque appelle. Mais elle trouve toujours des raisons de se rassurer. Christophe Rocancourt lui signe en retour des chèques qu'elle pourra encaisser plus tard, des reconnaissances de dettes. Catherine Breillat se persuade que ça suffit. Et bien sûr, de cette situation, elle ne parle à personne. Elle est seule. La honte, l'isolement, la peur. Puis un jour, elle n'en peut plus, elle est ruinée. Alors elle dit non à Christophe Rocancourt. Et elle le menace d'encaisser les chèques qu'il lui a signés. La situation se tend. Christophe la menace, elle craque et finit par en parler à son ex-mari. Et le 20 avril 2009, elle porte plainte pour abus de faiblesse.
C'est un engrenage. Comment vous l'expliquez? C'est comme quand les gens rentrent dans une secte. Finalement, j'étais rentrée dans une secte qui s'appelle Rocancourt. Oui, j'ai fait l'échec. Mais ce n'est pas moi. C'est quelqu'un dépossédé d'elle-même. Moi, je suis artiste quand même. J'ai tout de suite su que c'était un sujet extraordinaire. Tous mes films sont les miens à 100%.
Vendredi 17 février 2012, 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ils sont là, tous les deux, Christophe Rocancourt et Catherine Breillat. Le premier dans le box, la seconde dans la salle en face de lui. 3 ans plus tôt, elle a porté plainte et quelques mois plus tard, elle révélait son histoire dans un livre intitulé tout simplement, enfin si je puis dire, « Abus de faiblesse ». Un ouvrage dans lequel elle raconte l'engrenage terrible où elle a plongé en partie de son propre fait. Porter plainte pour abus de faiblesse est toujours délicat. D'abord parce qu'il s'agit d'une notion juridique complexe qui mêle des éléments psychologiques, de santé, physique ou mentale. Ensuite, parce que pour le plaignant, il s'agit de reconnaître une errance, une perdition, une honte quelque part également. Catherine Breillat a dû faire ce chemin, celui de se confronter à la réalité terrible de l'emprise que cet homme a eue sur elle. Les débats s'ouvrent et face à face, les thèses s'affrontent. Du côté de la cinéaste, on affirme que Christophe Rocancourt a abusé de sa faiblesse physique et psychologique liée à son état après son AVC, les crises d'épilepsie fréquentes, le traitement qu'elle devait prendre. Cet ensemble, affirme le rapport des médecins, lui a fait perdre une part de sa lucidité, de sa capacité de raisonnement et de conscience, notamment des chiffres. Ainsi, Christophe Rocancourt aurait profité de cet état pour lui faire signer sur 3 ans 16 chèques d'une valeur cumulée de 750 000 euros. Et qu'a-t-il fait de cet argent? Il l'a dépensé, flambé, tout simplement dans des suites d'hôtel, dans des achats au prix faramineux. Dans le camp d'en face, on rejette la thèse de la déconfiance.
Rocancourt est une cigale, hein. C'est-à-dire que l'argent ne compte pas, carpe diem, il en a, il en dépense, il en a plus, il faut en retrouver. Eh bien, ça s'est installé tout doucement, et tout doucement, il a pris de l'argent, il en a encore pris. Pensant toujours rembourser. Oui, mais sur 2 années, finalement, reporter ça au mois, quand on dépense beaucoup, quand on a une jolie femme qui coûte très cher, en plus.
Il est donc là, Christophe Rocancourt, il a toujours sa superbe. Il n'esquive pas, il assume. Oui, il a bien fait signer des chèques à Catherine Breillat, argent qu'il a ensuite dépensé, mais dans le cadre d'une avance pour un projet professionnel. Non, en aucun cas, il n'a profité de sa faiblesse ou de son état. D'ailleurs, n'avait-elle pas pleinement conscience de ce qu'elle faisait? Comment cette femme, qui aurait pu être abusée, a-t-elle pu écrire un livre et continuer de préparer un film autour de son histoire? Face à lui, la plupart des observateurs du procès le remarquent. Par moments, Catherine Breillat regarde son ancien ami avec une sorte de fascination. Elle rit même, parfois, à ses répliques. À d'autres moments, elle s'effondre, comme lorsque l'avocat de Christophe Rocancourt, Jean-Yves Lienard, déclare « Une femme de 50 ans qui a une amitié amoureuse avec un bad boy, ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est la vie. » Finalement, Christophe Rocancourt sera condamné à 16 mois de prison, dont 8 fermes, et à 578 000 euros de dommages et intérêts pour abus de faiblesse. Depuis, sa route s'est séparée de celle de Catherine Breillat. La réalisatrice ne retrouvera sans doute jamais l'argent perdu que Christophe Rocancourt lui rembourse tout de même, oh, comme il le peut, une partie tous les mois. L'ancien escroc continue de construire sa légende, il publie des livres qui souvent évoquent une nouvelle facette de sa personnalité. On en vient à se demander si, au fil du temps, l'arnaqueur ne se perd pas dans les méandres de son propre jeu. Et une question pourrait résumer toute cette histoire et en expliquer les ressorts. Christophe Rocancourt, sait-il lui-même qui est Christophe Rocancourt?
Fill me up, bring me down.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le dossier Christophe Rocancourt, notre invité Jean-Yves Liénard, bonjour.
Bonjour.
Cet avocat pénaliste, vous avez été le défenseur de Christophe Rocancourt au cours du procès autour de l'affaire Bria. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec ce personnage et ce que vous avez ressenti?
Oui, elle n'est pas inintéressante. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant parisien et j'ai été frappé par son regard, qui est tout à fait clair, qui est franc, qui vous regarde dans les yeux. Et cet homme que je ne connaissais pas du tout, en dehors de quelques coupures de presse, mais bon, qui ne m'avait pas spécialement intéressé, me dit d'entrée de jeu, ce qui est rare, je vous préviens maître, moi je ne triche pas, je suis un escroc. Hein, faut que vous le sachiez, vos clients vous disent qu'ils n'ont rien fait, moi j'ai fait, point final. Hein, vous acceptez ou pas de me défendre, mais ça c'est moi. Si vous voulez, c'est une démarche assez rare, parce que l'escroc en général essaie de masquer sa délinquance en disant « je suis un innocent crucifié, j'ai été condamné, mais mon Dieu, comme ils se sont trompés, finalement je ne suis rien du tout ». Lui, pas du tout, très cash. Personnage totalement cash, ce qui est rare. Ça, voyez-vous, c'est ce qui m'a peut-être marqué dans ma première rencontre avec lui, qui est assez rare parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont mis en examen ou qui sont accusés de d'infractions de nature différente. Hein. Le premier réflexe, même chez les politiques du plus haut rang d'ailleurs, qui sont pris les mains dans le pot de confiture, c'est de dire c'est pas ma main et c'est pas de la confiture. Lui, il a dit c'est ma main et c'est de la confiture. Voilà.
Et à votre avis, pourquoi il a dit ça?
Parce qu'il souhaitait instaurer, je pense, un rapport de franchise et de confiance, tout simplement. Mais je vous dis, c'est un rapport assez rare. Ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie où les choses se passent aussi directement.
Est-ce que vous avez été séduit? Est-ce qu'un avocat peut être séduit déjà d'emblée?
Bon, d'abord, ça n'est pas une jolie femme, donc c'est un peu compliqué. Mais séduit, vous savez, intrigué. Voilà, le terme est plus exact. Hein. Intrigué par la franchise du personnage, par ce côté un petit peu cash qui était le sien, oui, intrigué. Et puis intrigué également par ce qu'on avait pu lui prêter, ce qu'il a fait peut-être ou n'a pas fait, je n'en sais rien, je n'y étais pas, hein, et le personnage que j'avais devant moi. Si vous voulez, bon, c'est pas en effet Arsène Lupin, c'est pas Alain Delon dans le temps du Guépard, hein, sans aucun doute. Hein. C'est un personnage qui, tandis qu'il n'est pas plus laid qu'un autre, hein, il n'est pas plus laid que moi. Peut-être même qu'il était plus beau, j'en sais rien, je le dirai pas. Bon, donc c'est un personnage, voyez-vous, qui si vous le rencontrez dans la rue, tant qu'il ne vous regarde pas, n'inspirera rien.
Ouais.
Ni bien ni mal, il fait partie du lambda, voilà. Bon. Quand il vous regarde et commence à vous parler, là il sort de ce lambda. Pour devenir quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est intéressant.
Est-ce qu'il y a, selon vous, chez lui, une forme de talent, alors mise au service de la mauvaise cause? Une escroquerie, c'est pas une bonne cause. Est-ce qu'il y a du talent?
Bon, forcément qu'il y a du talent. Attendez, rien ne se fait par hasard dans la vie. Avez-vous déjà vu quelqu'un réussir dans n'importe quel domaine en ressemblant à la plaine de Beauce après la tonte des blés? Mais non, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Et il y a en effet quelque chose chez cet homme, sans aucun doute.
Peut-être que ça révèle surtout la crédulité des gens.
Bon, vous savez, celle-là, elle est sans limite. Hein. Bon, elle est sans limite. Hein. Mettre corbeau sur un arbre perché, ça marche tout le temps, cette histoire-là. Et puis, il faut bien dire que quand vous prenez les gens d'une certaine manière, par leurs points faibles peut-être, vous pouvez en obtenir tout ce que vous voulez. C'est ce que font tous les escrocs. Hein. L'escroc, c'est généralement la théorie de l'apparence, la très belle voiture, les beaux costumes, les montres Rolex avant 50 ans, et puis toutes les attributs, si vous voulez, d'un certain standing, hein, qui vont faire en sorte que vous allez inspirer confiance, quelquefois même une légion d'honneur. Bon, peut-être mérité celle-là, il y en a si peu de mérité qu'on va quand même en parler quand on la mérite.
Alors, il y a un autre ingrédient, évidemment, mais qui est compris dans tout ce que vous venez d'exposer, c'est l'histoire. Il faut un récit. Vous avez été étonné, vous, de la façon dont les médias, quand il est revenu en France, lui ont offert des tribunes. on s'est dit, bah tiens, celui-là, c'est une belle histoire. Donc c'est une belle histoire pour un média. Ça vous a frappé, ça?
Ben non, vous savez, bon, les médias, je ne veux pas faire votre procès, hein, vous allez me jeter à la porte.
Non, parce que tous les médias ne sont pas les mêmes. Donc,
mais,
voilà.
D'accord, donc vous êtes un média à part. Donc exactement, je peux vous parler franchement.
Oui, hein. Allez-y.
Bon, si c'est vendeur, on va le faire. Hein. Bon,
alors.
Tout ce qui est vendeur va intéresser les médias, forcément. Une couverture de tous ces journaux qui ne valent rien, la Gala, Voici, Voilà, enfin toute la bande, là, bon, ça, en couverture, ça fonctionne. L'escroc d'Hollywood, que sais-je encore, bon, ça va faire vendre. Après le moment où ces vendeurs vous intéressent, quels que soient les produits que vous vendez d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et lui, se vend pas mal.
Bon, alors, quand vous l'avez vu, enfin, vous avez d'abord étudié le dossier, puis vous l'avez vu, votre système de défense, comment vous l'avez construit?
Bon, vous savez, d'abord, je ne suis pas architecte, hein, je ne construis pas grand-chose, mais ce qui m'a semblé, moi, apparent à la lumière du dossier, c'est que Mme Bréa était certes handicapée à la suite d'un AVC, mais ça ne semblait pas altérer ses neurones. Elle semblait avoir une vie sociale, une femme qui discute, qui parle bien, qui réfléchit, qui répond. Alors, j'étais frappé par la mise en examen et par le chef de mise en examen. Bon, abuser de la faiblesse d'autrui, c'est très particulier quand même. Hein. Il faut que la personne que vous abusez ne soit pas en état de discerner, que cette faiblesse soit apparente ou connue de son auteur. Enfin, il y a des critères très précis. Hein. Il ne s'agit pas de dire « Oh, j'ai été volé parce que… » etc. Non, ça ne suffit pas. Bon. Donc, je me suis dit dès le départ, cette affaire ne tient pas beaucoup. Et d'ailleurs, à l'arrivée, me suis-je tout à fait trompé, je vais dire à moitié. À moitié parce que le tribunal, ne l'oublions pas, a relaxé Monsieur Rocancourt, sur une partie très importante du dossier. Je ne suis peut-être pas trompé complètement, parce que la peine qui a été prononcée n'est pas une peine en adéquation avec un véritable abus de faiblesse de quelqu'un qui serait allé voler une malheureuse vieille bonne femme en profitant de sa faiblesse. Hein. 18 mois, dont 8 avec sursis, donc 6 avec sursis, pardon. Bon, je ne vais pas dire que c'est rien. Mais ça n'est pas une peine qui est quand même très conséquente. Hein. Donc le tribunal a tenu compte, si vous voulez, de tous les ingrédients, avec un jugement intelligent d'ailleurs, sans aucun doute, la 13e l'était. Donc un jugement intelligent qui a tenu compte de tous les ingrédients, et notamment de ce mode interrogatif que l'on pouvait placer à propos de la faiblesse de Mme Bréa.
Donc ça veut dire que quand il y a abus de faiblesse, derrière les lignes, hein, pourrait y avoir certaines formes de complicité de la victime, je fais attention aux mots que j'emploie, mais… Est-ce qu'il y aurait ça? Catherine Bréa, quand même, elle le prend en son sein, si je puis dire. Elle le couve, elle lui dit...
Mais écoutez, voilà. je ne sais pas si c'est par chance, mais vous avez employé le mot parfaitement exact. Complicité. J'ai été très frappé à cette audience, ce qui m'arrive rarement, ce qui m'est très rarement arrivé dans ma vie, par le fait que vous aviez dans le box, puisqu'il était détenu à l'époque, n'ayant pas pu régler la caution qui lui avait été fixée par le magistrat instructeur, il y a eu une sorte, je dirais pas de complicité, presque de tendresse. Je ne sais pas si je vais trop loin, je ne le crois pas.
Complicité humaine, en tout cas. Hein, hein,
c'est, ah, c'était quand… il y a une patte humaine qui est passée, il y a un sentiment humaine, là, il y a un fil, sans aucun doute. Mm-hmm. Hein, entre Mme Bréa, qui certes était victime, était assise parce que physiquement, elle a quand même un physique altéré, l'autre dans le box qui est bien droit, qui reconnaissait en effet avoir fait ses chèques, sans aucun doute. Hein, et puis ces deux qui se regardaient quelquefois, on avait presque la limite d'un clin d'œil. Bon, je t'ai bien nu, ouais, tu m'as bien nu, mon coco. Bon, mais si vous voulez, ça m'a laissé penser que, au-delà de l'escroquerie pour laquelle il était condamné, au-delà de tous ces chèques qui ont été faits, il n'y a pas eu que cela dans leur relation, voyez-vous. Il y a également une relation humaine, certainement réelle et profonde, hein, qui s'est poursuivie, y compris jusque devant le tribunal.
Qu'on pourrait qualifier d'amitié amoureuse, par exemple. Cet espace étrange, psychologique, entre l'amour et l'amitié.
Alors, on va dire oui, amitié amoureuse. Moi, vous savez, je n'étais pas dans leur intimité, derrière les portes et les fenêtres.
Bien sûr.
Je ne suis pas invité. Là, j'aimerais savoir ce qui s'y passe, parfois. Mais là, je n'étais pas invité. Bon, que s'est-il passé? Je ne vais pas me prononcer. Mais en tout cas, il y a eu au moins une sorte d'amitié amoureuse. Hein.
Charles Guénard, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté une chanson de Serge Gainsbourg au titre, on va dire, de circonstances. Thank you.
morale en fait d'escroquerie. Oui, trêve de morale et de plaisanterie. Se noieront dans l'écume du temps, les escrocs que nous fûmes, amants de diamants. L'amour est un échange de mauvais procédés, et les femmes se vengent de nous avoir aimés. Pour qui se fait esclave ainsi de ses passions, les paradis se parent de noires intentions. La patience est amère, et pour attendre quoi? Que retombent en poussière jaguars et chinchillas. Celle-ci laisse entendre qu'elle aime les cailloux. Et quoi doit-elle attendre qu'ils lui sautent au cou? Celui qu'elles font vivre est bien le plus malin. En lireuse ou en livre, il compte ses putains. Et s'il est sans scrupule, la faute en est à qui? Oh Lola, aux Ursules qui vous aiment pour lui. On ment comme on respire, il y a bien de quoi. Pour un prince sans rire, perdre un peu son sang-froid, perdre son self-control et sa mélancolie, avant de faire en tôle de la neurasthénie. Avant de prendre en grippe ceux de l'illégalité, écoutons les principes de l'immoralité. Est-ce commettre un crime que de voler son prochain? Ce serait manquer d'estime envers les assassins. Qu'importe la morale en fait d'escroquerie. Oui, trêve de morale et de plaisanterie. Se noieront dans l'écume du temps, les escrocs que nous fûmes, amants de diamants.
Serge Gainsbourg, l'escroc. Jean-Yves Lienard, je rappelle que vous êtes notre invité, que vous étiez l'avocat de Christophe Rocancourt pour cette affaire Rocancourt-Breillat. Donc on a parlé de Catherine Breillat, évidemment, l'abus de faiblesse, les difficultés à cerner cette notion d'abus de faiblesse. Alors on va dire aussi, comme dirait l'autre, Rocancourt, c'est pas un ange non plus. Évidemment, comment vous avez défendu, tenté de défendre le fait que malgré tout, il ait quand même profité de cette femme, qui lui a quand même extorqué de l'argent, même si elle aurait pu en avoir plus conscience, car vous dites qu'elle avait les facultés psychologiques pour en avoir conscience.
Vous savez, je vais vous dire, je n'ai pas instruit le procès en canonisation de M. Rocancourt, hein, ça sans aucun doute, qui admettait d'ailleurs parfaitement avoir pris cet argent. Maintenant, il ne fallait pas le diaboliser plus que cela, voyez-vous. Il a pris cet argent parce que finalement, on a accepté de lui donner. Il n'a pas tordu le bras de Madame Breillat. Vous savez, bien sûr qu'il a pris des excuses toujours. Il devait faire un film ensemble. Donc, il a au début considéré que ça pouvait être versé à titre d'avance sur ses qualités d'acteur. Puis après, les choses s'enchaînent un petit peu plus, un petit peu plus. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de mensonges dans la manière dont il a obtenu cet argent. Maintenant, si un jour, vous me trouvez un escroc qui vient vous dire « Bonjour, monsieur, est-ce je suis un escroc, vous pourriez me faire un chèque pour que je puisse vous escroquer ?» Je ne suis pas sûr que ça marche très bien, voyez-vous. Donc, il faut toujours habiller la chose. C'est évident que ça a été habillé. Mais Madame Breillat n'a pas opposé non plus d'une opposition massive à tout ça. Hein, parce que... On a dit plus tard, parce qu'il fallait le dire, que cette femme était dans un état de... etc. Bon, probablement était-elle malade, probablement a-t-elle traversé une très lourde épreuve de santé. Mais pas ses neurones, qui ont marché, voyez-vous. Alors, il y a eu quand même, dans cette relation entre les deux, je le répète encore parce que c'est marquant, qui s'est prolongé hein, jusque devant le tribunal, probablement une relation réelle, profonde, d'amitié, peut-être de respect, d'estime, entre cet intellectuel d'un côté, cet autre qui ne l'est pas du tout, mais qui ne prétend pas l'être d'ailleurs, hein, mais qui a d'autres valeurs, si vous voulez. Bon, quand Rocancourt vous dit qu'il n'est pas sans valeur, il a raison.
C'est quoi ses valeurs ?
Ben, je ne le vois pas, par exemple, voler, voyez-vous, 200 euros à une pauvre vieille qui sort d'une caisse d'épargne, hein, où elle est allée retirer de quoi manger pour sa semaine.
Ah, pour lui, il y a la bonne escroquerie et la mauvaise escroquerie, quoi. La présentable, la pas présentable.
Mais pour moi aussi. Attendez, je fais une différence fondamentale entre celui qui va escroquer quelqu'un pour qui, bon, certes, ça ne sera pas agréable de l'avoir été, mais enfin, qui va s'en remettre, hein, et l'escroquerie qui peut-être va marquer à vie hein, quelqu'un qui en sera la victime. Oui, en effet, il y a plusieurs types d'escroquerie, sans aucun doute.
Bien, on va écouter une archive maintenant. C'est la sœur de Christophe Rocancourt, qui en 2015 a accepté de témoigner dans un reportage de Complément d'enquête sur France 2. Écoutez attentivement.
À mes yeux, il sait me faire rire. Il a une joie de vivre, il est pétillant, très attachant, grande personnalité, qui a du charisme. Un soir, il m'appelle, il me dit, c'est ton frère. Quel bonheur. L'explosion de joie. Est-ce qu'on peut se voir? Donc il m'a invité à Honfleur, on s'est vu à Honfleur. À part la naissance de mes enfants, c'était le plus beau jour de ma vie. Un jour, il m'a dit, voilà, ma soeur, j'ai un gros souci, là, je suis un petit peu dans l'embarras, et est-ce que tu peux m'aider? Et à cette époque, j'étais à mon compte, j'avais une bonne situation, quoi, et... J'ai écouté. Oui.
Vous lui avez donné quoi exactement?
Mes économies et j'ai fait un crédit pour lui. Il m'a bousillé ce mec. Ça paraît anodin, personne ne comprend. La haine et l'amour.
Jean-Yves Viennard, sa propre sœur. Est-ce que ça vous inspire, ça, ce que vous entendez?
Pas grand-chose, à vrai dire. Hein. Bon, d'abord, je n'ai pas très bien compris l'articulation de ce qu'elle disait.
Oui, bon, d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, écoutez attentivement.
Mais j'écoutais attentivement, mais vous n'avez peut-être pas perçu que je n'avais plus mes oreilles de 20 ans. Hein, et que votre
le retour fort.
Et que votre son n'était pas exceptionnel. Bon, alors, ce que dit la sœur de Rocancourt correspond probablement à ce qu'elle ressent à son propos à un moment T, voyez-vous. Mais Rocancourt est quelqu'un de... sensible par ailleurs. Il ne faut pas croire que ce soit une espèce de monstre seulement escroc, seulement à toujours à la recherche du pigeon à pouvoir plumer. Hein. Mmh. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi du cœur, qui peut avoir une sensibilité, une véritable, voyez-vous. Bon, moi je suis persuadé, je me trompe peut-être, mais j'espère ne pas me tromper, que si demain j'avais un gros souci financier, je lui demande 20 000 euros, s'il les a, il va me les donner. Ça comptera pas d'ailleurs, il me les redemandera pas, parce que l'argent ne compte pas pour lui. Et moi, voyez-vous...
Bah, vu la façon dont il le gagne, effectivement, ça compte pas beaucoup.
Peut-être bien, mais enfin, il y en a qui le gagnent d'une façon tout aussi frauduleuse, hein, et qui vont le mettre à la caisse d'épargne, hein, pardonnez-moi. Parce que là, ces 750 000 euros ont été, mais alors, allègrement, joyeusement, devrais-je dire, hein, dépensés en futilité absolue, mais... Envie, tout simplement, champagne, donnez-moi le meilleur, pas n'importe lequel, hein, et puis les bons restaurants, et puis l'hôtel Normandie à Deauville. Bon, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va procéder à une escroquerie pour se faire son petit bas de laine et après aller acheter son bar tabac dans le Vaucluse, voyez-vous. C'est quelqu'un qui s'en fout, qui se dit, allez, demain, ce sera un autre jour, et puis aujourd'hui, vivons. Bah, moi, ça m'est plutôt sympathique, voyez-vous, ces gens-là. J'aime pas trop les rats d'égout qui grattent sans sou par-ci, sans ci par-là, vous savez. Et qui, avec leur grosse bonne femme, le soir, disent, ah, chérie, hein, on va comme au camping de Cabourg, c'est 5 euros de moins que le camping de Deauville. Ah, hein, Gaston, t'es pas idiot. Bon, si vous voulez, chacun sa sensibilité. Là, je vous exprime la mienne, mais si vous le souhaitiez pas, fallait pas m'inviter, vous avez pris un risque. Hein. Bon.
Mais y a aucun problème.
Et je vous dis, très honnêtement, mon Rocancourt, moi, me semble être quelqu'un de cette sensibilité-là. Bon.
Est-ce que, alors, on n'est pas aux assises, mais que disaient les rapports psychologiques dans le dossier?
Pas grand-chose.
Genre
pas grand-chose. Vous savez, je vais vous dire, je vais être méchant là, pardonnez-moi, parce qu'il y a d'excellents psychiatres et psychologues, mais aussi toute une armée de gens qui le sont un peu moins.
Hein. Bon,
Alors, Jean-Yves Liénard, récemment, on a de nouveau entendu parler de Christophe Rocancourt dans l'affaire de la cocaïne du 36 quai des Orfèvres. Alors, dans cette affaire, je développe un peu, un policier a été arrêté pour avoir volé plusieurs kilos de cocaïne sous scellé. Une partie de l'argent de la vente de la drogue était toujours introuvable. Or, le policier se retrouve en prison avec Rocancourt et comme partenaire de promenade. Quelques jours plus tard, un ami de Rocancourt et un ami du policier sont retrouvés en train de pêcher dans un lac des sacs contenant de l'argent. On soupçonne Rocancourt d'avoir convaincu le policier qu'il pouvait l'aider. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous allez me redonner les petites notes là que je vous ai prêtées, s'il vous plaît, merci.
Mais écoutez, ce que ça m'inspire, c'est que pour le moment, cette affaire n'est pas jugée.
Oui.
Ou alors j'ai mal suivi l'actualité, mais je ne pense pas. Cette affaire n'est pas jugée, alors moi, vous savez, je suis assez primaire dans mes réflexions. Je vais suivre la présomption d'innocence, qui est une pantalonnade, hein. La plus belle pantalonnade qui existe, hein. Je vais suivre la présomption d'innocence, hein, et puis le secret de l'information, qui est aussi une deuxième pantalonnade. Bon, ça en fera deux le même jour, c'est pas mal, hein. Et vous dire que je ne vous répondrai pas. Bon, que c'est probablement...
C'est votre droit.
Ce que vous me dites est probablement vrai, puisque vous le dites, hein, et que vous me semblez dire la vérité immédiatement.
Bon.
Donc maintenant, moi, je vous dirai rien.
Alors, moi, mon rôle, c'est aussi c'est donner de l'information, mais il reste 15 secondes pour dire à nos auditeurs que des écoutes policières révèlent également que Christophe Rocancourt, qui ne déclare aucun revenu depuis 2012, détiendrait, vous entendez le conditionnel, hein, détiendrait plusieurs comptes bancaires à l'étranger. Voilà, c'était pour compléter le dossier. Jean Liénard, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Rocancourt, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Antoine Gomez qui était à la technique aujourd'hui.